Alors, merci à Johan et à toute son équipe. Et à vous aussi, vous avez participé, n'est-ce pas? C'était beau de vous entendre chanter les louanges de Dieu. Dieu est merveilleux dans ce qu'il a fait. Et surtout aussi, Dieu est merveilleux dans ce qu'il est. Et quelle joie d'être parmi vous ce matin. Quelle joie d'être, de faire partie du peuple de Dieu. Et vous savez, l'apôtre Paul avait une habitude quand il écrivait à ses chers chrétiens dans les églises. Il leur disait que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est moi aussi ma prière pour vous ce matin. Qu'importe la semaine que vous venez de vivre, que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec vous. Et aussi... Bienvenue particulier à nos visiteurs ce matin. On est bien content que vous soyez avec nous ce matin. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles, s'il vous plaît, et trouver le livre de Néhémie. Néhémie, chapitre 12. Et nous allons considérer les versets 27 à 47. Néhémie 12, 27 à 47. Et j'ai intitulé ce message... Viens, voici le temps de célébrer. C'est le temps aujourd'hui de célébrer. Et si vous avez suivi le parcours d'Israël à travers le livre de Néhémie, vous savez que le peuple avait rebâti la muraille malgré une forte opposition de la part de l'ennemi. La dernière fois, nous avons vu que même quelques-uns ont fait de grands sacrifices. Ils ont quitté justement une vie aisée en banlieue pour aller s'installer et pour habiter la ville de Jérusalem. Ça, c'est du passé. Et maintenant, la muraille reconstruite, c'est le temps de célébrer. C'est le temps de se livrer à des réjouissances. C'est le temps de la joie, comme nous allons voir dans notre texte. Et quel contraste avec notre société en général aujourd'hui, où est-ce qu'on trouve si peu de vraie joie? Je ne parle pas du plaisir. Du plaisir, il y en a en masse. Mais du vrai joie, il en trouve très peu. Quelqu'un a dit que notre âge, c'est l'âge aspirine. Tout le monde a mal à la tête. Très peu de gens sont... satisfaits, sont contents, sont joyeux. Et c'est ce que nous trouvons dans le monde, mais jamais, jamais dans l'Église. Jamais parmi le peuple de Dieu. C'est vrai, n'est-ce pas? Non, non, non. Malheureusement, plusieurs croyants ressemblent, et je vous dis ça pour vous, culpabiliser, vous vous pointez le doigt, parce que quand on fait ça, il y a trois doigts qui reviennent. Mais quelqu'un a dit que plusieurs croyants ressemblent à des pharisiens qui étaient reconnus pour leur robe longue, leur prière longue et la face longue. Olivier Wendell Jones a dit ceci. Écoutez bien. Je serais peut-être devenu ministre si certains gens qui se disaient chrétiens n'avaient pas l'air et n'agissaient pas comme des coqs morts. Alors les Écritures nous disent, écoute, nous sommes exhortés dans la parole de Dieu de se réjouir. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, Philippiens 4, 4. Êtes-vous joyeux ce matin? Pouvez-vous chanter sincèrement « Joie, joie, mon cœur est plein de joie » ? On chante ça avec les enfants, même les adultes aussi, on peut chanter cela. Et si on utilisait la mesure de votre joie que vous avez ce matin pour prouver que vous étiez chrétien, est-ce qu'il y en aurait assez de joie dans votre vie pour vous condamner? Il faut se poser cette question, il faut y réfléchir. Dans Néhémie chapitre 12, Israël est dans la joie. Le peuple célèbre Dieu joyeusement. Mais quel est leur secret? Alors, on va lire notre texte pour découvrir quel est le secret, justement, d'une joie, un temps où est-ce que le peuple est là pour célébrer notre Dieu. Alors, Néhémie chapitre 12, au verset 27. Et on va juste lire quelques textes que je vais sélectionner. Alors, lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites et de tous les lieux qu'ils habitaient. Et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants au son des cymbales, des luttes et des harpes. Allez jusqu'au verset 30. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Verset 31. Et je fis monter sur la muraille les chefs de Juda. Et je formai deux grands chœurs ou des chorales. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille vers la porte du fumier. Derrière ce chœur marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda. Et là, on a toute une liste de noms. On va jusqu'au verset 37. À la porte de la source, ils gravirent par la montée de la muraille les degrés de la cité de David qui était en face d'eux, au-dessus de la maison de Dieu, jusqu'à la porte des eaux vers l'Orient. Le second camp se mit en marche à l'opposé. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille, passant au-dessus de la tour des fours en allant jusqu'à la muraille large. Puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la porte de Hananéel, de la tour de Méa jusqu'à la porte des brebis, et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les deux camps s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi, et les sacrificateurs, Eliakim, Masséja, etc. Verset 42b, les chantres se firent entendre, dirigés par Jisrachar. Verset 43, on offrit ce jour-là de nombreux sacrifices. Et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi. Et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient des magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes. Et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes, les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites. Car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions, selon l'ordre de David et de Salomon, son fils. Verset 47. Tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et des portiers, jour par jour, on donna aux Lévites les choses consacrées, et les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées. Voilà notre texte. Et l'idée maîtresse de ce texte, c'est que ce texte nous enseigne qu'en réponse à la grâce merveilleuse de Dieu, dont Dieu a fait preuve à leur égard, le peuple de Dieu devrait le célébrer joyeusement. Et ce matin, j'aimerais simplement regarder avec vous quelques aspects d'une joyeuse célébration de Dieu. Quel était le secret qui a permis aux enfants d'Israël d'être dans la joie et de célébrer le Dieu joyeusement? Alors, tout d'abord, si on va célébrer, si on va être dans la joie, on va célébrer notre Dieu joyeusement, ça commence par un cœur qui est pur. Une joyeuse célébration de Dieu commence par un cœur qui est pur. Et si vous regardez encore votre texte au verset 30, qu'est-ce que nous lisons? Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Avez-vous remarqué les enfants d'Israël ont décidé de célébrer la dédicace. C'est terminé. On est content, on a eu du travail, on a travaillé fort, c'est fini. Ils ont communiqué justement cette idée aux Lévites qui sont venus à Jérusalem. Et une fois arrivés à Jérusalem, ils n'ont pas dit « Wow, it's a party time, que la fête commence !» Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant de se lancer dans les festivités, ils se sont purifiés. Ils ont purifié le peuple, ils ont purifié les portes et ils ont purifié la muraille. Et c'est pas besoin d'y tourner, mais ce que nous avons ici, c'est un rituel cérémonial. Vous allez trouver cela dans Nombre chapitre 19, je vous donne juste des grandes lignes, qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils prenaient un animal pur, sans tache, une vache rousse, on l'égorgeait. On le brûlait, on prenait la cendre, et avec cette cendre-là, on faisait ce qu'on appelle une eau de purification. Et avec cette eau, on aspergeait justement le peuple, on aspergeait les murailles, on aspergeait presque tout, et symboliquement, justement, on déclarait que la personne était purifiée. Mais il y avait toute une signification dans cela. Pourquoi est-ce qu'il faisait cela? Mais il y a une raison tout à fait... basique pour cela, parce que dans Psaume 24, il y a deux questions qui sont posées. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Ça, c'est la question qui est posée. On va aller devant Dieu, on va le célébrer, on va être joyeux dans sa présence, mais il y a une prérequis, et ça, c'est le prérequis. La réponse revient dans Psaume 24, celui qui a les mains innocentes et le cœur qui est pur. On ne peut pas s'approcher de Dieu de n'importe comment. Hein. Il faut venir avec un cœur qui est pur. Dans Psaume 51, vous connaissez l'histoire. David a commis un péché terrible, adultère et meurtre. Et là, il est confronté par le prophète Nathan. Et David est conscient justement de son état devant Dieu. Et dans Psaume 51, il va répandre maintenant son âme devant Dieu et il va crier à Dieu pour retrouver justement sa communion avec Dieu, sa joie avec Dieu. Il va dire, « Oh Dieu, purifie-moi de mon péché. » Encore au verset 9, il va dire, « Purifie-moi. » Et le cri de son cœur au verset 12, il va dire, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » Parce qu'il sait. Il sait que c'est par là que ça commence, d'avoir cette communion avec Dieu, de se réjouir, d'avoir la joie de son salut. Il sait qu'il faut qu'il ait un cœur pur. Alors ce matin, en êtes-vous convaincu ce matin? Si on veut célébrer Dieu, si on veut être joyeux dans sa présence, ça commence avec un cœur pur. Si on veut l'adorer joyeusement, ça commence avec un cœur pur. Les sacrificateurs, ils étaient convaincus. Les Lévites aussi, ils étaient convaincus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont purifiés. Et la raison pour cela, juste pour explorer cela, Dieu est un Dieu qui est saint. Ésaïe chapitre 6, vous avez justement Ésaïe qui a une vision. Et il y a des séraphins qui sont devant le trône de Dieu. Et ils ne cessent de crier, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Dieu est saint. Et la deuxième chose, c'est que nous, par exemple, nos cœurs sont méchants et nos cœurs sont mauvais, sont tortueux. Dans Jérémie 17, 9, nous disons que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. La question se pose, qui peut le connaître? Alors, si on veut s'approcher de Dieu, si on veut être joyeux dans sa présence, si on veut le célébrer joyeusement, il faut que ce soit sur les termes de Dieu à lui. Et Dieu nous dit formellement, purifiez-vous, soyez saints, car je suis saint. Si vous voulez, soyez purs, car je suis pur. Et c'est tout à fait logique. Quelle valeur ce serait d'avoir un peuple de Dieu en étant Jérusalem qui est appelée la ville sainte? Pourquoi? Parce que c'est la ville où Dieu a choisi d'y placer son nom. Et là, vous avez Jérusalem, qui est un type de la Jérusalem céleste qui vient, une ville où est-ce que Dieu, qui nous dit dans l'Apocalypse, que rien d'impur va y rentrer. Et là, vous avez un peuple dans cette ville sainte, mais le peuple n'est pas saint. Ça ne va pas ensemble. Alors Dieu ici veut enseigner à son peuple à travers les Lévites et les sacrificateurs. Vous êtes dans Jérusalem, qui est la ville sainte, alors ça prend un peuple qui est saint. Purifiez-vous. Et la deuxième chose aussi, est-ce qu'on va faire la dédicace des murailles? On va consacrer justement le travail que nous avons fait et les murailles à Jérusalem, à Dieu. Mais ça prendrait aussi un peuple qui est dédié, qui est consacré. Les deux vont ensemble. Et c'est pourquoi nous avons justement un rituel cérémonial. J'aimerais vous laisser avec quelques conséquences qui arrivent quand nos cœurs ne sont pas purs, en guise d'application. Quand on permet au péché justement d'y lire domicile, dans un premier temps, il y a des conséquences. Nous privons Dieu de la gloire qui lui est due. Et je vous ai mis une citation de catéchèse de Westminster où est-ce que nous lisons « Le but principal de notre existence est de glorifier Dieu et de nous jouir de sa présence pour toujours. » Et ça, nous ne pouvons pas le faire quand il y a du péché, parce que le péché, c'est une offense à Dieu. C'est de la rébellion. Et loin de glorifier Dieu, c'est une rébellion contre lui. Et essayer de servir Dieu avec un cœur qui est rebelle ou est-ce que du péché, mais ça nous expose justement à la reproche de Dieu que nous avons dans Matthieu 15, 8, où Dieu va dire à Israël, « Ce peuple m'honore de lèvres, mais quoi? Son cœur est loin, éloigné de moi. » Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi qui découle d'un cœur qui est impur, c'est que nous privons nous-mêmes de la joie de notre salut. Dieu nous a donné un salut merveilleux et avec ce salut est associé une joie. Mais quand il y a du péché, quand les cœurs ne sont pas purs, ne sont pas purifiés, qu'est-ce qui arrive? Éphésiens 4:30 nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Il y a une bonne raison pour cela. Parce que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans la vie du chrétien. Pour produire quoi? Le fruit de l'Esprit, c'est la joie, l'amour, la joie, la paix, etc. Alors, si le Saint-Esprit est attristé par un péché qui est dans la vie d'un croyant, il ne peut pas produire justement cette joie qui devrait y être. Et troisièmement, nous sommes aussi un mauvais témoignage pour notre entourage. Quelqu'un a bien dit un jour à quelqu'un qui se disait chrétien, « Je croirais bien plus dans votre religion si vous aviez plus de l'air de quelqu'un qui a été sauvé. » Quel triste commentaire, imaginez. Alors, ce matin, si vous êtes ici, vous savez qu'il y a quelque chose dans votre vie, un péché quelconque qui vous enlève votre joie, purifiez-vous. Et comment est-ce que nous faisons cela? Mais la parole de Dieu est claire par la confession. Dans Jean 1, 19, nous lisons ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et là, je trouve ça merveilleux. On a parlé de Dieu, on a chanté de Dieu, là, merveilleux dans ce qu'il est et merveilleux dans ce qu'il fait. Et Dieu, dans sa bonté, connaissant notre faiblesse, connaissant que nous sommes tellement assujettis à tomber dans le péché qui nous enveloppe si facilement, il nous a donné une manière tout à fait simple, mais tout à fait efficace pour rester en communion avec lui, pour avoir toujours dans notre vie le Saint-Esprit qui est là à l'œuvre, en train de produire de la joie dans nos cœurs, simplement confesser nos péchés. Et on voit la puissance du sang de Jésus-Christ qui est capable, qui est efficace de nous purifier. Parce que le texte dit, si nous confessons nos péchés, Dieu il va faire le reste. Il est fidèle Et souvent nous chantons, Dieu fidèle, tout ne change pas. Et qu'importe le péché que nous avons fait, Dieu est fidèle, il ne change pas pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia! On peut avoir toujours cette purification journalière pour rester en communion avec notre Dieu et jouir justement de sa personne et jouir justement du fruit de l'Esprit qui est la joie. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa merveilleuse grâce, a mis cela à notre disposition. Parce qu'il sait qu'on est des personnes qui sont tellement faibles. Alors, célébrer Dieu joyeusement, nous avons besoin d'un corps pur. Les Anglais, ils ont dit tellement de façon succincte, holiness, holiness precedes happiness. La sainteté précède le bonheur ou la joie. Think so? Holiness precedes happiness. Vous voulez être joyeux? Vous voulez avoir la joie de Dieu dans votre cœur? Mais soyez pur. Soyez pur. Deuxièmement, si on va célébrer Dieu joyeusement, ça découle non seulement d'un cœur qui est pur, mais un cœur qui est reconnaissant. Un cœur qui est reconnaissant. Si vous regardez votre texte au verset 27, Néhémie 12, 27, nous lisons ceci, que lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites, etc., afin de célébrer la dédicace et la fête par les louanges, par les chants, etc., au son des cymbales, et ainsi de suite. Je vais vous donner une autre version deux autres versions qui vont nous aider à mieux comprendre le texte. La Nouvelle Bible Second nous dit qu'ils sont fait venir les Lévites afin de célébrer la dédicace dans la joie. Par des louanges. Darby, qui est une traduction plus littérale, faire la dédicace avec joie, avec des louanges. Et pourquoi ce que je dis, c'est un cœur reconnaissant? Parce que le mot dans l'original qu'on traduit par louange veut dire simplement action de grâce. Et là, vous avez tout un scénario. Que c'est beau de voir le peuple sont là. Ils veulent justement célébrer Dieu. Ils veulent justement faire un événement spécial pour marquer la fin justement des travaux et tout cela. Ils sont joyeux, mais animés d'un cœur reconnaissant. Reconnaissant envers Dieu. Pour les leaders que Dieu avait suscités. Jérusalem qui était en ruine, et quand Néhémie avait reçu le rapport de ses frères, un homme qui a pleuré devant Dieu, et Dieu a mis sa main sur lui puis l'a amené. Et on dit que les Juifs qui étaient là étaient au comble de malheur et de l'opprobre. Et là, ils sont reconnaissants parce que Dieu a eu pitié de lui envoyer justement Néhémie, Esdras et d'autres hommes de Dieu pour rectifier la situation. Ils sont reconnaissants envers Dieu pour sa protection. Ils n'ont pas eu la vie facile. On a vu dans les chapitres précédents comment est-ce qu'il y avait des hommes comme Tobija, il y avait aussi Sanballat et ses acolytes à qui ont voulu mettre les bâtons dans les rues, et combien de fois les Juifs étaient vraiment consternés, puis il y avait une pression pour arrêter justement le travail. Et Dieu avait confondu les ennemis, et ils sont contents pour cela. Ils sont reconnaissants. Et ils sont reconnaissants envers Dieu parce que ils avaient achevé justement, ils avaient commencé à construire, mais ils avaient fini. Et ils étaient bien reconnaissants parce qu'ils ont pu achever le travail. Et aussi, ils sont reconnaissants pour le grand réveil spirituel que Dieu avait opéré dans leur milieu. Et pour démontrer justement cette reconnaissance envers Dieu, ils ont dit, écoute, on va célébrer cela, on va célébrer notre Dieu, on va faire la dédicace. C'est le temps de se livrer à une joyeuse célébration de Dieu, ponctuée par des chants, par des louanges, des actions de grâce. On va mettre nos talents de musiciens à l'œuvre. On va avoir des instruments, puis wow, on va louer Dieu. Et ça, c'est ce que nous avons dans le chapitre 12. Et il n'y a rien de mal avec cela. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que Psaume 100 nous dit comment louer Dieu. le texte nous dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Alors, si, vous pouvez imaginer la situation. Le peuple est là, ils sont devant justement la preuve que Dieu était à l'œuvre parmi les. Ils ne peuvent que faire d'autre chose que de s'éclater en joie à cause de ce que Dieu avait fait, de grandes œuvres que Dieu avait fait. Et ils ont mis en pratique sans pousser vers l'Éternel des cris de joie. Oh, yes! Woo-woo! Alors, on est en train de louer Dieu. Alors, on lit aussi, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Verset 4 de psaume 100 nous dit ceci, entrez dans ses portes avec des louanges, des actions de grâce, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Psaume 147 dit ceci, chantez à l'Éternel avec actions de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Et j'aimerais vous dire là, que j'aurais aimé être là ce jour-là. Ça a dû être tout un service de célébration. Là. Le monde il était en extase. Et la joie, là, c'était extraordinaire de les voir. Et juste pour vous dire comment cela s'est fait, rapidement, ils ont, comme Néhémie a dit, ils ont formé des camps. Ils sont montés sur la muraille. Il y avait un qui a pris une direction, l'autre a pris l'autre direction. Ils se sont rencontrés dans la maison de Dieu. Et là, les chantres se sont fait entendre. Ils ont chanté. Ils ont élevé leur voix pour glorifier Dieu. C'était pas là en train de... Non, ils chantaient là. Puis ça sortait. Tellement ils étaient dans la joie puis dans la réjouissance à cause de ce que Dieu avait fait pour eux. Juste rapidement vous donner quelques indications à propos de cette célébration. Dans un premier temps, c'était public. Et vous avez rappelé que quand ils ont commencé à faire la muraille, là, il y avait les ennemis qui ont dit « À quoi travaillent ces Juifs impuissants, les moqueries? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à ces pierres ensevelies sous les monceaux de poussière et consumés par le feu. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. » Tellement que l'ennemi là était se moquer d'eux autres, disant, mais qu'est-ce que vous faites là? Ça n'a pas de sens. Ça ne va même pas tenir debout. Et quelle démonstration de la puissance de Dieu. La muraille supporte non seulement un renard, mais il y a des centaines de gens maintenant qui sont sur la muraille en train de louer Dieu, de marcher et probablement de danser. Et l'ennemi avait dit, si un renard, vas-y, ça tombe à terre. Le peuple est sur les murailles en train justement de célébrer le Dieu. Et ça doit être justement un soutien puissant pour fortifier le foi. Et justement, de se rappeler que l'œuvre avait été accomplie par la volonté de Dieu. C'était aussi une célébration passionnée. Vous allez vous rappeler, dans Psaume 137, les Juifs sont en exil. Je vous ramène un peu dans le passé. Ils sont en captivité, ils sont découragés, ils sont assis sur les bords des fleuves de Babylone en larmes. Et le texte nous dit ceci, nous pleurions en nous souvenant de Sion ou Jérusalem, au sol de la contrée, nous avons suspendu nos harpes. Et là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des chants de Sion ou de Jérusalem. Et leur réponse était, mais comment chanterions-nous des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Ça, c'était la condition avant. Mais aujourd'hui, dans Néhémie 12, nous avons une situation tout à fait différente. Nous avons un peuple qui est animé par la joie du Seigneur parce que Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Malgré la désobéissance qui avait occasionné leur exil, Dieu ne les avait pas abandonnés. Dieu les avait ramenés de l'exil, sont en Israël, un peuple restauré, le temple est restauré, Jérusalem chérie est rebâtie, les murailles sont là, le temple est reconstruit, Le peuple peut maintenant aller devant Dieu et adorer Dieu. Le peuple de Dieu est dans la ville de Dieu, accompagné par la présence de Dieu. Tout est là. C'est une occasion favorable pour louer le Seigneur et pour l'adorer, se célébrer joyeusement devant lui. Et comme le texte nous dit, Dieu avait donné à son peuple un grand sujet de joie. Une joie qui était débordante. Le texte nous dit que ce jour-là, des Israélites se sont livrés aux réjouissances. Et j'imagine qu'ils se sont laissés aller. Ils se sont laissés aller. Parce que c'était pour Dieu. Ils se sont laissés aller, ils se sont livrés aux réjouissances. Il n'y avait rien de timide, de, comment on dit en anglais, half-hearted, là, sans enthousiasme. Non, non, ils sont devant Dieu, sa bonté, sa générosité, sa fidélité. Tout cela, ils se donnent justement à la joie, ils sont livrés à la joie. Deuxième chose, c'était une joie aussi qui était contagieuse. Le texte nous dit que les femmes et les enfants aussi se réjouirent. Tellement que cette joie était vibrante, était débordante. Il y a des gens autour qui ont été éclaboussés dans le bon sens, et contaminés si vous voulez. Papa se réjouissait, maman se réjouissait, les enfants se réjouissaient, tout le monde se réjouissait devant Dieu. Et c'était aussi une joie, peut-être j'ai inventé un mot, mais ça veut dire que ça témoignait aux alentours. Le texte nous dit que le cri de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Les voisins ont entendu cette fête et cette célébration. Et sans doute, il disait dans les paroles de Psaume 26, « L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. » Et Israël répondait, « Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. » Toute une célébration. Tellement ils étaient reconnaissants, ça débordait dans une explosion de joie. J'aimerais poser une question ce matin. Êtes-vous un croyant reconnaissant? Parce que c'est là une source de joie. Vous savez, Thessaloniciens 5, 18 nous dit ceci, « Rendez grâce en toutes choses. » Et là, nous avons un combat, et nous sommes tous exposés à cela. Nous avons notre vieille nature qui est déchue, la chair qui veut toujours nous inciter, et ça a été mentionné ce matin, de focaliser sur ce que nous n'avons pas, de voir toujours le point noir. Et si on fait cela, ça va nous amener inévitablement à ne pas être reconnaissant. Et pourtant, ce matin, Dieu nous a donné aussi, comme Israël, un grand sujet de joie. Et je vais vous juste simplement énumérer quelques-uns. La joie de se savoir pardonné. Romains 8, 1 nous dit, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Quelle joie de savoir que nous sommes pardonnés. Nos péchés passés, présents, futurs, Dieu a dit, « Je les ai effacés. » Quelle joie d'avoir Dieu pour Père, d'être ses enfants d'adoption, d'être héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Quelle joie d'avoir un maître qui est fidèle, un bon berger, un souverain sacrificateur qui est miséricordieux et compatissant. Quelle joie de savoir que nous allons vivre éternellement dans la Nouvelle Jérusalem, dans la présence de Dieu, dans le bonheur total, fini les peines, les pleurs, les maux de dents, les bobos, la maladie, la mort, c'est fini. Nouveau corps, péché, c'est des choses du passé. On est dans la présence de Dieu et on va être là pour l'éternité. Quel grand sujet de joie. Et je ne veux pas non plus minimiser justement la vie. La vie peut apporter des coups durs. Et la vie aussi peut apporter des souffrances. Mais dans les temps difficiles, le secret de ne pas perdre notre joie, c'est de focaliser, pas sur les circonstances, mais focaliser sur la personne de Jésus-Christ. Je pense aux disciples qui sont dans la chambre haute. Et là, ils sont bouleversés. Le Christ qui pensait aller justement ramener le royaume en Israël, il a été crucifié. Et là, ils sont dans la part et Jésus apparaît au milieu d'eux. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et ça, c'est la clé. Gardez nos yeux sur le Christ. Et c'est là que même dans les situations difficiles, on peut toujours avoir la joie. Et troisièmement, et j'active, je vois que le temps est presque passé. On va célébrer Dieu joyeusement, un cœur pur, un cœur reconnaissant, mais troisièmement aussi un cœur qui est généreux. Après la célébration, on va établir des âmes, on va mettre des chambres à part, on va dire, on va accueillir dedans des offrandes, des dîmes et ainsi de suite. Et ça va servir justement au soutien des lévites, des chants, des sacrificateurs, des portiers, tous les gens qui sont impliqués dans le service de l'Éternel au temple. Et ça, c'est l'attitude d'Israël. On donna des portions des chants et des portiers jour par jour. On donna aux lévites des choses consacrées. Le peuple est généreux. Et vous remarquez deux choses ici. C'est un soutien qui est donné par tous. Il n'y a pas juste quelques-uns qui ont le fardeau de soutenir l'œuvre de Dieu dans le temple, mais tous ont contribué. Et aussi, c'était une contribution qui était régulière, jour par jour. C'était une contribution qui donnait de façon régulière. Et quelle était leur motivation? La motivation, c'était parce que ils avaient compris et saisi l'importance de l'œuvre de Dieu au temple. Et ils voulaient voir justement que l'œuvre de Dieu progresse et prospère à Jérusalem. Et pour eux, c'était justement une source de joie. Et ils voulaient justement contribuer à cette œuvre et il n'y avait aucune difficulté à mettre leurs mains dans la poche pour y contribuer. Sans joyeux, en donnant justement à l'œuvre de Dieu. Et c'est ça ce qu'un cœur reconnaissant traduit justement de façon pratique par un cœur qui est généreux. Et juste une explication, parce que quand nous ne sommes pas reconnaissants, on n'est pas satisfait avec ce que nous avons. Et quand nous ne sommes pas satisfaits avec ce que nous avons, nous voudrions toujours en avoir plus. Et montre-moi quelqu'un qui veut toujours en avoir plus, et je vais vous montrer quelqu'un qui est égoïste, qui est centré sur lui-même, sur ses désirs, et qui a beaucoup de difficultés à tendre sa main vers les autres pour être généreux. Mais le contraire est aussi vrai. Quelqu'un qui est reconnaissant pour ce qu'il a, c'est qu'il va être quelqu'un qui est généreux. Un cœur reconnaissant est un cœur généreux. Et de plus, un cœur qui est généreux, c'est aussi un cœur qui est joyeux. Et Jésus a dit dans Actes chapitre 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Juste une petite application ici. Ce matin, nous avons eu un rapport des états financiers. Et je vais vous poser une question. Il ne faut pas répondre à haute voix. Mais est-ce que vous êtes en train de soutenir l'œuvre de Dieu ici dans l'Assemblée au Cap de la Madeleine? Et si vous le faites, êtes-vous aussi généreux que vous pouvez l'être? Et si vous le faites aussi, est-ce que vous êtes aussi régulière que vous pouvez l'être? Ce sont des choses à mettre devant le Seigneur. Et par sa grâce, que le Seigneur vous guide et vous conduise d'agir en conséquence. Vous savez, Dieu aime celui qui donne avec joie, comme ça a été aussi souligné ce matin. Et peut-être ce matin, vous êtes ici, vous n'avez pas connu cette joie dont je vous ai parlé, parce que vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus. Et si vous êtes dans cette condition, la Bible nous dit que vous êtes encore dans vos péchés. Et comme nous avons vu, le péché nous prive de la joie. Il y a un texte dans Ésaïe 59, 2 qui nous dit ceci. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et pire encore, privé de la présence de Dieu, mais si on meurt dans nos péchés, c'est grave. On va être privé de la présence de Dieu pour l'éternité et privé aussi de la joie. On ne connaîtra pas la joie, on va connaître plutôt la souffrance et une éternité de souffrance. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Mais l'évangile, c'est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est une source de joie. Nous avons un Dieu qui est saint, comme nous avons entendu ce matin au repas du Seigneur, qui hait le péché. Mais nous avons aussi un Dieu qui est amour, qui aime le pécheur. Et dans son amour et dans sa sainteté, il trouve une solution tout à fait simple pour nous, mais extrêmement difficile pour le Christ. Le Christ a pris notre place sur la croix. Et il a satisfait aux exigences de Dieu pour le péché. Il est mort, il a payé notre dette. Et Dieu maintenant, parce qu'il est satisfait par le paiement de Christ, il peut maintenant librement pardonner par amour le pécheur. Et ce matin, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez pas encore donné votre cœur au Seigneur Jésus-Christ, je vous l'inviterai à le faire. Et la Bible nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je peux vous dire que ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, quand le Seigneur change un cœur, il va vous donner un cœur nouveau. Il va vous remplir de son esprit. Il va vous donner cette joie dont je vous ai parlé. Et un cœur où maintenant vous pouvez être reconnaissant pour Dieu, pour tout ce qu'il a fait. Sachant aussi que vous avez l'éternité pour le glorifier et pour encore le remercier pour ce qu'il est et aussi pour ce qu'il est fait. Quel Dieu et quel sauveur merveilleux que nous possédons. Alors, je vous invite, si vous n'avez pas encore fait, de le faire ce matin. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Tu es tellement grand, tu es au-dessus de nous. Et ce matin, nous te demandons simplement de prendre ta parole et de l'appliquer à nos cœurs, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans tous les cœurs, le mien, le premier. Que tu changes nos cœurs, nous changes nos attitudes. Fais en sorte que nous puissions être un peuple caractérisé, Seigneur, par cette joie dont nous avons parlé ce matin. Que la joie de l'Éternel soit notre force, que nous puissions nous réjouir malgré les circonstances difficiles que la vie peut apporter, parce que notre joie est dans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par nous avec ta bénédiction, notre Dieu. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaît pas, nous te demandons ta grâce, ta miséricorde pour te révéler à une telle personne. Donne-lui, Seigneur, un cœur nouveau afin qu'il puisse quitter ce lieu joyeux, sachant que ses péchés ont été pardonnés. C'est par nous avec ta bénédiction que ta grâce et ta paix reposent sur nous pendant toute la semaine qui s'en vient. On demande ces grâces au nom de Jésus. Amen.